Bonjour à tous. Les livres sont un trésor inestimable. Vous savez à quel point je les aime et quel immense plaisir je partage avec vous mes lectures éclectiques. Cette semaine, je vous propose de découvrir « La formule de Dieu » de José Rodríguez dos Santos, le deuxième tome de sa série « Tomás Noronha », qui compte aujourd'hui 11 épisodes. Dos Santos est né en 1964 au Mozambique, de parents portugais. De retour au pays lorsqu'il a 9 ans, son père ne s'adaptant pas au Portugal, ils partent vivre à Macao, alors sous administration portugaise. C'est là qu'adolescent, il crée un journal étudiant qui pique l'intérêt de responsable d'une radio locale. À 17 ans, José Rodríguez commence sa carrière de journaliste au sein de Radio Macao. Il suit ses études dans cette branche et devient docteur en sciences de la communication. Il devient professeur à la Nouvelle Université de Lisbonne et journaliste pour RTP, première chaîne de télévision portugaise généraliste. Il est aujourd'hui le présentateur phare du JT de 20h, dont il occupe le poste depuis 1991. Le cryptologue et professeur Tomás Noronha est envoyé au Caire afin d'acquérir une stèle royale du musée égyptien. Sur place, il est abordé par une diplomate iranienne, Ariana Pakravan, dont les charmes font chavirer le professeur. Mais cette rencontre n'est pas fortuite. Elle est venue à sa rencontre pour lui confier une mission de la plus haute importance pour son pays, décrypter un manuscrit original en langue allemande dont le titre traduit est « La formule de Dieu ». Son auteur n'est autre qu'Albert Einstein. Il relate ses tout derniers travaux que le mathématicien avait entrepris à la demande de son ami Ben Gurion, premier ministre de la toute jeune Israël. L'enveloppe proposée par l'Iran pour ce travail est colossale, entre intérêts financiers, curiosité professionnelle et admiration pour son interlocutrice, Thomas n'est pas très long à se décider. Il accepte la mission. Mais il est bien loin de s'imaginer qu'il met les pieds dans un milieu qu'il ne connaît pas. Et contacté par la CIA qui lui en dit un peu plus sur ce manuscrit que l'oncle Sam cherche aussi à obtenir, il découvre qu'il va œuvrer au décryptage de la fabrication d'une bombe nucléaire d'une puissance inouïe. Un mode d'emploi qui sera aux mains d'un gouvernement instable et prompt à la belligérance. Fort de cette nouvelle donne, le professeur aimerait bien se dégager de son engagement, mais cela mettrait la puce à l'oreille à l'Iran, qui l'en connaît beaucoup plus que ce qu'il ne devrait. Il se rend donc à Téhéran, où de nombreuses péripéties l'attendent, dont un emprisonnement musclé qui aurait pu tourner au drame. La curiosité du professeur est toutefois piquée, et de retour chez lui, au Portugal, il poursuit ses investigations pour connaître le fin mot de l'histoire de la formule de Dieu. Cela l'entraîne au cœur des religions et il découvre que hindouisme, christianisme et judaïsme détiennent les clés de la création de l'univers, que le tout et le un sont liés, que l'alpha et l'oméga ne sont pas qu'une idéologie mais un fait et qu'Einstein, aidé de ses élèves dont le professeur Siza, récemment tué, tentait de prouver scientifiquement, mathématiquement, l'existence de Dieu. Pas l'anthropomorphe décrit dans la Bible ou le Coran, mais bien le grand créateur. Luis Rocha se concentra sur ce qu'il avait à dire. Bien, vous connaissez déjà l'histoire du premier ministre d'Israël, le défi qu'il a lancé à Einstein, l'élaboration de la formule de Dieu et la clause exigeant la découverte d'une seconde voie scientifique pour pouvoir rendre public le manuscrit. Ce qui s'est passé, c'est que le professeur Siza a pris très à cœur le projet d'Einstein et qu'il a décidé de consacrer sa vie à résoudre ce mystère. Était-il possible de trouver une seconde voie qui prouverait scientifiquement l'existence de Dieu? Tel était le défi qu'il devait relever. La première chose qu'il devait faire, c'était de définir l'objet de son étude. Qu'est-ce que Dieu? Quand nous parlons de Dieu, de quoi parlons-nous exactement? Du Dieu décrit par la Bible? Mais le Dieu décrit par la Bible, comme je vous l'ai expliqué, est absurde. Il se leva et prit un énorme volume magnifiquement relié, se rassit en ouvrant le livre sur ses genoux. « Voyons voir, » dit-il en feuilletant les premières pages. « Voilà, c'est ici. Dès le début de l'Ancien Testament, il est écrit que Dieu voulut faire à l'homme une aide qui lui soit assortie. Il fit alors ceci. Il modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devrait porter le nom que l'homme lui aurait donné. Puis la Bible ajoute « Mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, le Seigneur Dieu façonna une femme. » Louis leva les yeux. « Rien ne vous frappe dans ce récit ?» Thomas haussa les épaules. « Eh bien, c'est un récit biblique. » « Mais Dieu n'est-il pas censé être omniscient ? Ne devait-il pas savoir par avance qu'aucun des animaux ne ferait une aide adéquate ? Pour quelle raison Dieu attend-il de voir quel nom l'homme donnera aux animaux ? Être omniscient, ne pouvait-il pas déjà le savoir ? Et maintenant, écoutez ce qui arriva quand Dieu décida de provoquer le déluge. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. » Louis fixa à nouveau Thomas. « Le Seigneur s'est repenti ? Une fois encore, il n'était donc pas omniscient. Ne pouvait-il pas présager que l'homme se corromprait ? Étant parfait et tout-puissant, Dieu n'aurait-il pas dû tout prévoir en temps utile ? Quel est donc ce Dieu qui se met à réparer ses fautes ? Dieu, en fin de compte, commet aussi des fautes. Sans parler, bien sûr, du vieux paradoxe d'un Dieu omnipotent et bon, mais qui laisse le mal se répandre sur toute la terre, puisqu'il est bon et qu'il a le pouvoir d'imposer le bien. Pourquoi laisse-t-il le mal exister ? Et s'il est parfait, pourquoi a-t-il fait l'homme si imparfait ? Tout cela conduisit Einstein à penser que le vrai Dieu n'était pas le Dieu de la Bible. C'était une entité omnisciente et intelligente, la force derrière l'univers, le grand architecte de tout, et non la figure anthropomorphique, paternelle et morale de la Bible. Cette conviction d'Einstein, le professeur Cisa l'avait assimilée. Non. Effectivement, le Dieu de la Bible présente trop d'incohérences. Il ne peut pas exister. Dieu n'est pas un personnage protecteur qui passe sa vie à se soucier de ce que font les hommes. Ce Dieu-là est une créature humaine. Mais vous oubliez la preuve de la création de l'univers en 6 jours, consignée dans le manuscrit d'Einstein. Ne pensez-vous pas que cela confirme les Écritures ? C'est un élément très important, reconnut Louis Rocha. Comme je vous l'ai dit, Einstein était convaincu que le Dieu de la Bible n'existait pas. Mais en même temps, il a conclu qu'il y avait des vérités profondes, mystérieusement cachées dans l'Ancien Testament. Comment expliquez-vous cela ? Il n'y a pas d'explication. C'est un fait que, pour des raisons inconnues, les textes anciens renferment des secrets cachés. Et c'est grâce aux différentes théories énoncées tout au long du livre que l'on arrive à comprendre le lien ténu entre science et théologie, en passant par le Big Bang, la théorie de la relativité, la valeur du temps en fonction de la gravité et les fameux 6 jours de la création de notre univers. Mais quel est le but ultime de tout cela ? Que cherche donc ce Dieu créateur du tout ? Une hypothèse est proposée à la fin de l'ouvrage, qui vous bouleversera sans doute ou vous confortera dans l'idée que le hasard n'existe pas.